La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Le 23 janvier dernier, trois jours seulement après avoir été investi à la Maison Blanche, Donald Trump décidait d'interdire le financement des ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Concrètement, cette politique va réduire l'accès à l'avortement dans toute une série de pays en développement, mais pas seulement. Elle va aussi réduire l'accès à la contraception et à des traitements contre le sida, par exemple. Nous allons parler de l'impact de cette politique dite du Global Gag Rule avec nos deux invités ce soir, Irène Donadio, conseillère en stratégie politique à l'IPPF, la Fédération internationale du planning familial, donc une organisation internationale directement concernée par cette mesure, et avec aussi Vin Nguyen, chargée de recherche et plaidoyer genre et développement au CNCD 11111, donc le Centre national de coopération et développement. Alors bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous avons également rencontré il y a quelques jours Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre de la coopération et développement. Il nous parlera de l'impact de cette décision américaine sur le droit des femmes dans les pays en développement. Il nous parlera aussi de la conférence internationale She Decides, Elle Décide, qui sera organisée à Bruxelles la semaine prochaine, le jeudi 2 mars, pour récolter des fonds. Alors, Irène Donadio, revenons un peu sur la décision de Donald Trump. Il a en fait réinstauré une politique anti-avortement qui avait été initiée sous la présidence de Ronald Reagan en 1984. Une politique qui avait été surnommée politique de Mexico ou Global Gag Rule, comme je l'avais dit en introduction. En quoi ça consiste exactement cette politique ?
Ça veut dire tout simplement que désormais les États-Unis ne financeront plus la moindre organisation qui favorise de près ou de loin l'accès à l'avortement sûr et légal, et ceci dit, même avec ses fonds propres ou des fonds qui viennent d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la photo parce que c'était vraiment incroyable et c'était sur tous les médias et sur tous les journaux. C'était frappant parce que là, on a vu qu'elle était toute seule en compagnie d'hommes et au moment qu'il a pris cette décision qui a un impact dévastant sur la vie des femmes. Et pour moi, c'est une image et un acte qui ont dit non, en fait. Durant votre vie, vous ne pourrez jamais, je crois, voir 7 femmes qui vont signer un décret concernant les organes reproductifs des hommes. Donc pour nous, c'était vraiment la folie. Et c'est clair qu'on parle beaucoup des IVG, mais dans les faits, comme vous avez dit, c'est l'accès à la contraception dans les pays les plus pauvres qui en pâtira. Et pour nous, c'est particulièrement dramatique parce qu'évidemment, comme organisation qui s'occupe des santé sexuelle et reproductive et des droits sexuels et reproductifs dans 170 pays, on va être ciblé et on va pas signer. Et ça veut dire qu'on devra renoncer à des fonds essentiels pour les services de santé tels que la contraception, mais aussi les soins prénataux, la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ou des VIH et des SIDA. Et même du cancer gynécologique.
Oui, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est une politique, comme on le disait, qui ne va pas toucher uniquement l'avortement. C'est un peu un prétexte, en fait, l'avortement. On a l'impression que c'est vraiment un prétexte et un argument, un faux argument, finalement, qui est utilisé par Trump.
Tout à fait, parce que Trump, en fait, il est en train de mener une politique extrêmement idéologique. Il est en train d'agiter les drapeaux de l'IVG sur quelque chose qui n'a rien à voir, parce que les fonds américains n'ont jamais été utilisés, même sous Obama, n'ont jamais été utilisés pour financer l'avortement. C'est vraiment une politique menée pour tuer certains types d'organisations progressistes pour la liberté des femmes, pour l'autonomie et les droits des femmes, comme la nôtre en particulier. Et donc, la question grave, c'est que d'abord, cette politique va toucher les femmes les plus vulnérables du monde. Et je veux vraiment souligner ce fait, parce que c'est fait sous les dos de ces femmes-là. Et puis, ça va détruire un progrès qu'on a construit pendant des décennies. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devra fermer beaucoup, beaucoup de cliniques dans le monde entier. Et ça va provoquer, évidemment, une augmentation des grossesses non désirées et des avortements à risque. C'est-à-dire, on va mettre en danger la vie des femmes.
Alors, Vin Nguyen, est-ce que cette politique de Trump, finalement, est surprenante ou est-ce qu'elle elle va dans la lignée d'un courant, d'un retour dans certains conservatismes un peu partout dans le monde?
Alors, oui, effectivement, donc, on peut regretter cette décision comme Irène l'a expliqué, mais elle n'est pas anodine non plus puisqu'elle s'inscrit en fait dans un contexte international qui est particulièrement préoccupant en fait pour les droits des femmes, notamment le droit à l'avortement. On se rend compte en fait qu'il y a une réapparition en force des conservatismes au pouvoir, une montée de l'extrême droite, des fondamentalismes religieux aussi qui voient d'un mauvais œil en fait l'émancipation de la femme, notamment en ce qui concerne leur corps et leur sexualité. On le voit avec l'État islamique, mais aussi ça se passe chez nous en Europe, où on a vu récemment en Pologne qui a en fait finalement failli adopter une loi qui interdisait l'avortement, y compris en cas de viol, mais aussi en cas de danger de la mère. Ailleurs, dans les autres pays, l'avortement continue à être criminalisé dans la plupart des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Donc en fait, pour ces pays, même s'il y a des différences évidemment entre eux, le rôle des femmes est avant tout reproductif. Donc les femmes sont avant tout des mères, des épouses. Elles doivent rester à la maison, s'occuper des enfants, du ménage et se soumettre à l'autorité en fait du mari. Et donc, si vous voulez, en quelque sorte, leur corps ne leur appartient pas. Et donc, ce discours patriarcal de domination masculine commence vraiment à gagner du terrain dans les enceintes internationales. Moi, j'ai participé l'année dernière à la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, où j'ai pu vraiment voir que tous ces États, en fait, rejetaient de manière systématique les passages relatifs à la contraception, à l'avortement, mais aussi à l'homosexualité, qui, selon eux, en fait, menacent la vision traditionnelle de la famille. Donc, en fait, la décision Trump, c'est un peu en quelque sorte une aubaine en fait pour ces pays, puisque c'est un État puissant qui conforte leur position. Donc je pense que pour les organisations de la société civile, les organisations des droits des femmes, ça doit vraiment en fait renforcer notre vigilance et notre combat, et nous rappeler en fait que chaque droit humain, chaque droit des femmes en fait est un acquis qu'il faut protéger et renforcer de manière constante sous peine qu'il recule.
Oui, donc on voit qu'effectivement ça va toucher toute une série de personnes, et en particulier les personnes les plus pauvres. Et par exemple, sous la présidence de Bush, cette politique avait aussi été mise en place, et on a vu que ça avait eu un impact dans toute une série de pays. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques exemples, Irène Donadio, de pays, de vraiment de choses très concrètes, et de pays qui avaient été touchés par cette mesure.
Tout à fait, parce qu'évidemment, on a bien étudié les résultats néfastes de ces politiques dans le passé, et donc pendant l'administration Bush. Et par exemple, nous pouvons parler de la situation vécue par notre membre Ougana en Afrique. Notre membre a été contrainte à fermer un certain nombre de cliniques et à réduire considérablement les services. Et les résultats, c'était clairement une augmentation des grossesses non désirées et une forte augmentation de l'avortement à risque, de l'avortement clandestin, en particulier dans les zones rurales. Et où les services de santé sexuelle et reproductive sont été les plus touchés, sans évidemment parler des rien relatifs aux droits sexuels et reproductifs qui, à ce temps-là, étaient déjà utopiques et maintenant, de nouveau, sont menacés. Donc, comme notre copine venait de souligner, il y a la question des droits des femmes, d'abord. Il y a la question des droits des femmes lesbiennes, par exemple, aussi, parce que toute diversité sera punie, sera sanctionnée de manière très grave. Il y a aussi la question liée, par exemple, à la lutte au sida, parce que dans le passé, on a vu cette intransigeance religieuse, ce fanatisme religieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on commence à penser à des politiques de prévention du sida et on commence à dire aux gens qu'ils doivent pratiquer l'abstinence et la prière? C'est à ça qu'on est confronté maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les ICA? On va dire aux femmes aussi de penser à la prière, à l'abstinence, pour pouvoir se protéger. Vous voyez que dans les mondes, ça va avoir un impact catastrophique. C'est clair, hein, on a déjà une estimation de la souffrance qui va dériver par ça, et particulièrement au niveau des nouvelles infections des VIH et aussi des nouvelles infections du sida, du Zika. En Amérique latine.
Et est-ce que, même si on revient peut-être juste deux minutes à la question de l'avortement, est-ce que ça ne risque pas même d'avoir un effet contre-productif, puisqu'on va avoir par exemple des femmes qui vont du coup avorter dans des conditions précaires, et on risque d'augmenter le nombre d'avortements parce qu'elles n'auront pas eu accès à la contraception par exemple?
Mais tout à fait, mais il y a déjà des études qui ont été menées à Stanford et qui ont déjà montré que c'est évident que particulièrement en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, on aura une augmentation des grossesses non désirées. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces grossesses? Même s'ils désirent les éviter, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de contraception. Donc, les femmes seront obligées à recourir à l'avortement clandestin. Et on sait très bien dans les pays où l'avortement est interdit, qu'on a une bonne partie de la santé, de la mortalité maternelle qui est liée en fait à l'avortement clandestin. Par exemple, au Pérou, on sait bien que 13% des mortes des femmes sont dues à l'avortement clandestin. Donc c'est clair qu'on est en train d'aller vers une tragédie.
Alors, Irène Donadio, une des choses importantes à dire, c'est que non seulement l'administration Trump interdit le financement de toute une série d'ONG qui soutiennent les droits sexuels et reproductifs, mais en plus, elle va financer toute une série d'associations religieuses qui, elles, vont soutenir toutes les associations pro-life, comme on les appelle.
Tout à fait. Parce que je pense que beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte. D'abord, effectivement, il y a cette coupure de financement qui est monstrueuse, très différente, parce que sous Bush, on avait juste coupé toutes les interventions pour les plannings familiales. Maintenant, on est en train de parler de toutes les interventions sous la santé globale. Ça veut dire qu'on passe des 6 millions de dollars qui pouvaient être touchés à 9 milliards de dollars qui pourraient être affectés par cette décision. Deuxième chose, comme vous avez bien souligné, c'est pas simplement qu'on va couper, non. On va diriger cet argent vers d'autres organisations qui ont une agenda nationaliste, intégraliste, sexiste et évidemment fondamentaliste sur les plans religieux. Donc, il y aura pour les femmes vraiment une situation intenable, parce que d'un côté, on va couper les services et de l'autre côté, on va essayer de fomenter des pratiques d'oppression des femmes qu'on a toujours vues et qui vont sans doute améliorer leur vie et leurs conditions de vie. Troisième chose, il faut aussi dire que pour toutes les organisations qui ne vont pas signer au chantage comme la nôtre, et je vous ai dit, c'est 170 pays qui font partie des PPF et 30 qui vont être durement touchés par ça. Toutes les autres organisations, la société civile et même les pouvoirs, ils vont avoir peur de travailler avec eux, quoi que ce soit, parce qu'ils vont savoir qu'ils sont les cibles de l'administration américaine. Donc, il y aura quelque chose qu'on appelle un chilling effect en anglais, c'est-à-dire tout le monde va avoir peur des répercussions, l'effet paria. Si tu veux t'es prononcé pour les droits des femmes, tu risques d'être émarginé, tu risques d'être mis à l'écart, tu risques d'être en fait abandonné parce que tout le monde va avoir peur de perdre l'argent américain.
Alors, je vous propose qu'on écoute dans quelques instants la réaction d'Alexander De Croo, donc vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement, et qui nous explique pourquoi finalement la Belgique s'est engagée dans la conférence Chili Sides qui aura lieu la semaine prochaine et qui va avoir pour objectif de récolter des fonds pour, on va dire, essayer de contrebalancer cette décision de Trump. Mais avant d'écouter Vin Nguyen, est-ce que la Belgique a toujours été active en matière de droits sexuels et reproductifs, en matière de coopération au développement?
Oui, effectivement. Et donc, en fait, la Belgique soutient les droits sexuels reproductifs parce que pour elle, ce sont des droits humains qui sont consacrés dans les conventions internationales qu'elle a ratifiées, comme la Convention des Nations Unies sur les droits de la femme, mais aussi d'autres instruments internationaux comme le programme d'action du Caire ou le programme d'action de Beijing, donc auquel aussi elle a souscrit. Et donc, en fait, même si les efforts de la Belgique ont permis de contribuer à réduire le taux de mortalité maternelle dans ces pays, il reste encore beaucoup de choses à faire dans la lutte contre, par exemple, les mariages précoces forcés, les violences sexuelles. Et la Belgique, en fait, s'est engagée ces prochaines années donc, à financer un projet du Fonds des Nations Unies pour la population et le développement pour lutter contre les mariages forcés donc, au Niger. Ça, je pense que c'est un bon signal. Aussi, elle s'est engagée à financer des projets pour lutter contre les violences domestiques au Maroc. Ça, c'est aussi un autre bon signal. Mais je pense que si on veut vraiment que les droits sexuels reproductifs soient un levier efficace pour le développement, il faut une approche multisectorielle. Donc en fait, une approche multisectorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre en compte en fait les causes complexes et structurelles des problèmes liés à la santé reproductive et sexuelle. Donc on se rend compte en fait dans les pays en voie de développement, souvent les lois ne sont pas appliquées, les auteurs des violences ne sont pas poursuivis, et donc il y a vraiment une impunité qui règne. Et donc une approche multisectorielle, ça veut dire qu'il faut inclure le secteur de la santé, de l'éducation, mais aussi de la justice pour pouvoir justement traduire ces auteurs de crimes devant la justice. sexe. Mais il faut aussi que cette approche tienne compte en fait du contexte socioculturel qui souvent stigmatise les femmes et qui empêche les femmes d'accéder à ces centres de planning familial. Parce qu'il ne suffit pas de disposer d'un centre de planning familial pour que les femmes aillent consulter. Souvent, l'autorisation du mari est un obstacle fondamental. Donc il faut aussi travailler avec ces séries d'acteurs, donc avec les hommes, les femmes, pour pouvoir sensibiliser à cette question.
Mais donc on va écouter Alexander De Croo et puis on continue à en discuter juste après.
Alors Monsieur De Croo, pourquoi avoir décidé avec trois autres pays européens d'initier cette conférence She Decides donc le 2 mars?
Je pense que dans le monde du développement, il y a des évolutions très très positives. Et une des évolutions les plus positives, c'est qu'on voit que dans beaucoup de pays, le taux de natalité a baissé. Et c'est une bonne chose. Il y a trop de pays aujourd'hui, des femmes, mais en fait surtout des filles, ont 7-8 enfants dans leur vie, ce qui est beaucoup trop. C'est vraiment à l'encontre de chaque droit humain, parce que souvent ils ont leur premier enfant à l'âge de 11-12 ans, se marient très tôt et en fait sont enceintes la plupart de leur vie, n'ont aucune capacité de développer leur vie comme eux ils le veulent. Et bon, la décision américaine est une décision. Bon, les États-Unis sont un pays souverain, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Je pense que c'est une mauvaise décision, mais bon, je respecte leur droit de prendre ces décisions-là. Le choix que nous on a fait est un choix différent, c'est de dire ok, bon, essayons de regarder avec des pays qui ont les mêmes idées, avec des partenaires privés, comment est-ce qu'on peut trouver des fonds pour que l'impact sur le terrain soit le moins grave que possible.
Alors justement, cet impact, le fait vraiment que les États-Unis stoppent leur financement à ces ONG, concrètement, ça représente quoi? Ça représente combien?
C'est un financement de un peu plus que 500 millions de dollars, surtout à des organisations des Nations Unies, mais aussi à des ONG qui, d'abord, ne sont plus financées et qui doivent, chaque référence au planning familial et l'avortement doit disparaître. Alors, souvent, on a dit « c'est un fonds avortement que vous allez créer ». Non, ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je continue à penser que chaque avortement en est un de trop. Mais si on doit le faire, je préfère que c'est possible de le faire et que ça se fasse dans un endroit sécurisé et pas en illégalité avec tous les dangers qu'on voit. La plus grande priorité, c'est le planning familial, naturellement. Et c'est un droit, quand même un droit de base, c'est qu'une femme ou une fille puisse décider elle-même sur ce qu'elle fait avec son corps et qu'elle décide elle-même combien d'enfants elle veut avoir, avec qui et à quel moment. Quand on met à disposition le planning familial, en général, les femmes l'utilisent. Ils l'utilisent parce que, en général, elles aiment bien pouvoir décider sur le planning de leur vie. Et je pense que c'est logique de donner cette possibilité-là.
Et en donnant ces droits, justement, aux femmes, est-ce que pour vous, c'est vraiment une des clés pour le développement de toute une série de pays du Sud?
Nous sommes maintenant dans la période de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Un des points clés pour éliminer la précarité, c'est la position des femmes. Et être sûr que des filles peuvent aller à l'école, ont les capacités de vivre pas en dépendance, comme c'est trop souvent le cas, ont la possibilité de travailler, d'avoir un revenu. Ce qu'on voit en Afrique subsaharienne, c'est que quand des hommes travaillent, ils ramènent plus ou moins 60% de leurs revenus vers leur famille. Quand des femmes travaillent, c'est 90%. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en général, les femmes ramènent beaucoup plus de revenus vers leur famille, qui aident leurs enfants à avoir plus d'opportunités, etc. Donc, donner les opportunités de développement de la même manière à des filles qu'à des garçons, c'est vraiment la base de tous les efforts de développement.
Alors, concrètement, cette conférence donc, du 2 mars, elle va se dérouler comment et qu'est-ce que vous espérez vraiment de cette conférence?
Alors, cette conférence, on voit que ça devient de plus en plus grand, ce qui est une bonne chose. Et nous sommes naturellement très fiers que la Belgique peut l'organiser à Bruxelles. Deux buts. Hein, donc, un but est fundraising. C'est maintenant les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark ont décidé de mettre 10 millions d'euros. Bon, clairement, on a voulu donner un exemple et on espère que plein d'autres pays vont nous suivre. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle advocacy. C'est mettre les choses en cause, en discuter, assez montrer quelle est l'importance de ce qu'on appelle les droits reproductifs et sexuels. Ce qu'on essaye de faire, c'est que cette conférence soit une conférence, pas la conférence typique où tout le monde vient lire leur texte, mais où il y aura des témoignages, des débats, quelques... On est en train de trouver quand même pas mal de Belges connus qui sont tout à fait prêts à supporter cet effort, et aussi avoir des témoignages de femmes sur place, naturellement. Et la conférence n'est pas un point final. En fait, la conférence est un peu le début de mettre ensemble des acteurs, c'est des pays, mais aussi des sociétés privées, qui partagent nos idées par rapport à ça.
Et qui pourraient aussi soutenir la cause de façon plus structurelle et pas une seule fois.
Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'est que ça se fasse d'une manière beaucoup plus structurelle, que je pense que le secteur privé a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là, et que donner accès à le planning familial, à un système de santé sexuelle et reproductive, soit vu comme quelque chose de normal. Je pense que dans le monde entier, de plus en plus, c'est vu comme quelque chose d'assez basique, assez normal. Bon, le fait qu'un pays met ça en cause ne devrait pas changer notre opinion et ne devrait pas changer ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'une des leçons de ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est que nous, les Européens, on doit sortir un peu de l'ombre des États-Unis. Nous avons un poids plus important dans le monde, nous avons certaines valeurs qui sont plus stables, et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de plus porter nos valeurs dans le monde entier.
Alors, la semaine passée, dans La Libre, il y a une carte blanche d'un avocat qui reprochait finalement au gouvernement de faire une espèce d'ingérence dans la politique américaine, ou en tout cas de dire est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de s'opposer à une politique extérieure ou d'essayer de pallier en tout cas les effets de cette politique. Vous en pensez quoi ?
Oui, j'ai vu cette opinion. D'abord, bon, la personne s'est quand même un peu trompée parce que dans l'opinion, il disait qu'on allait financer des avortements aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. On se mêle pas de ce qui se passe aux États-Unis, sauf que bon, on peut avoir des questions de ce qui se passe aux États-Unis, mais les États-Unis font leur choix, c'est leur possibilité de faire leur choix. Je suis pas d'accord, mais je respecte leur choix. Mais nous, on a la capacité de dire, voilà, on veut que sur le terrain, il n'y ait pas d'impact. D'ailleurs, dans l'opinion, on dit oui, on décide comme ça, rapidement, etc. Non, ce n'est pas vrai. Le droit des femmes et la santé sexuelle et reproductive est une priorité du développement belge depuis des décennies. Ça a toujours été une priorité. La Belgique a beaucoup d'expertise dans le domaine et nous avons depuis longtemps une législation assez libérale par rapport à ça. Et donc je pense qu'on a quand même une voix qui peut se faire entendre dans le monde entier. Et puis d'un point de vue plus philosophique, est-ce que le fait d'aider une femme ou une fille à décider elle-même de ce qu'elle fait avec son corps, est-ce que c'est vraiment tellement étonnant ? Est-ce que vraiment on va mettre ça en cause ? Je pense que c'est quand même la logique même que ce n'est pas des hommes blancs aux États-Unis qui vont aller décider des possibilités d'une fille au Mali d'essayer de gérer sa vie elle-même et de ne pas être dans une situation de dépendance comme on le voit trop souvent aujourd'hui.
Alors, Irène Donadio, je voudrais qu'on revienne sur la conférence She Decides dont le ministre parlait. Donc, cette conférence, qu'est-ce que vous en espérez vraiment ? Donc, vous qui travaillez pour l'IPPF, la Fédération internationale de planning familial.
Alors, pour nous, c'est vraiment un moment fondamental. On est très encouragés par cette mobilisation et on a vraiment apprécié les rôles de la Belgique dans ces conférences parce que, comme le ministre vient de souligner, c'est une conférence très importante parce qu'il y a deux buts, en fait. D'un côté, c'est vrai de combler les manques de financement. De l'autre côté, c'est vraiment démontrer que les Européens vont défendre certains principes. Et ces principes sont vraiment le respect des droits de l'homme et surtout des droits de la femme. Et donc, qu'il y aura aussi une référence importante au niveau idéologique, au niveau des principes pour tous les pays qui vont être affectés par ces politiques. Deuxième chose, c'est vrai que ces batailles, ça vient de commencer. C'est juste les débuts, comme le ministre a dit. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut résoudre le 2 mars à Bruxelles et puis c'est fini. Ça sera pendant 4 ans, un combat continu. C'est très important pour tous les activistes, pour tous les défenseurs des droits de l'homme, de savoir qu'il y a eu cette mobilisation, une initiative qui est d'abord politique, gouvernementale, mais comme le ministre a dit, en fait, on appelle au soutien à tout le monde, les communautés, les secteurs privés, les ONG, c'est un dialogue. C'est vraiment un événement qu'on trouve hyper constructif et important pour montrer une leadership qui est surtout politique et qui dit d'abord les droits des femmes, la vie des femmes, ça compte, c'est important pour nous. Donc on veut les défendre.
Je vais quand même donner le site donc, qui s'appelle shedecides.com. C'est en fait une plateforme où chacun peut d'ailleurs faire un don pour financer toute une série de projets qui ne seront plus soutenus par les Américains. Et donc parce que cette conférence elle va effectivement rassembler des États mais aussi des donateurs privés. Donc je le rappelle, la plateforme c'est www.shedecides.com et vous pouvez tous faire des dons pour ces associations. Juste, peut-être, on arrive à la fin de cette émission, mais je voudrais revenir sur une ou deux choses qui ont été dites par le ministre et qu'on a dit déjà aussi, mais c'est vrai que, est-ce que finalement la santé des femmes, le droit des femmes, c'est vraiment une des clés du développement dans toute une série de pays est-ce que c'est vraiment ça la clé, en tout cas une des clés principales?
Je pense que oui, investir dans les droits sexuels reproductifs sont une des clés en fait pour le développement des sociétés, le développement durable des sociétés, parce que comme il l'a expliqué, ça a vraiment un effet multiplicateur en fait positif sur la communauté. Une femme qui peut aller à l'école, s'instruire, aura les capacités économiques, financières aussi pour pouvoir élever ses enfants correctement, qui eux aussi pourront à leur tour contribuer positivement à la société. Il y avait des études en fait qui ont été faites en Thaïlande et en Égypte et qui avaient en fait démontré que $1 qui était investi dans la planification familiale permettait en fait d'économiser de 16 à 31 dollars de coûts dans l'éducation, la santé aussi, mais d'autres services sociaux. Donc cet exemple montre vraiment que les droits sexuels reproductifs, mais de manière générale aussi les droits des femmes, peuvent vraiment être un levier efficace contre la pauvreté. Et moi j'aime bien rappeler un peu la phrase de Ban Ki-moon, en fait, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait en fait que le monde ne pourra jamais atteindre son plein développement s'il continue à se priver des capacités et des talents de la moitié de l'humanité.
Et Irène Donadio, peut-être effectivement sur cette question de la clé du développement et les attentes aussi des associations membres de l'IPPF pour l'avenir.
Tout à fait, parce que je voulais aussi dire, effectivement, il y a la question de la santé sexuelle et reproductive et je pense qu'il n'y a pas une seule femme dans le monde qui pourrait oublier l'importance de pouvoir décider d'abord qui aimer et qui ne veut pas aimer, qui marier ou pas, si avoir des enfants ou pas, et avec qui, avec quel âge, pouvoir s'instruire, pouvoir travailler, pouvoir prendre soin de la famille ou des gens que la femme aime, mais surtout aussi être protégée de la violence, parce que les droits sexuels et reproductifs, ça veut dire ça aussi. C'est l'espace d'autonomie de la femme. C'est la protection de la femme. On a parlé du mariage forcé. On a parlé peu, mais aussi des traditions qui, parfois, arrivent à opprimer les femmes, qui arrivent à faire des violences aux femmes. On n'aura jamais des solutions pour ça si on n'investit pas dans les droits sexuels et reproductifs et dans la santé sexuelle et reproductive. Et donc, moi, je peux pas imaginer un monde plus juste, plus correct, plus décent pour l'humanité, sans avoir cet espace pour les femmes. C'est clair qu'il n'y a pas de société qui vont être démocratiques et saines si on ne respecte pas les femmes. Et donc, ça, c'est clairement notre espoir. Nous luttons pour ça. Tout ça que nous faisons, c'est basé sur les droits de l'homme. Et on est vraiment, vraiment heureux de voir qu'il y a beaucoup de pays qui vont se mobiliser et beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas souligné ça, mais il y a eu toutes les marches des femmes qui ont commencé à Washington et se sont réparties partout dans le monde. On a vu ces mouvements qui, en plus, c'est un mouvement social qui grandissent, qui est en croissance. On a un mouvement des femmes qui est le même mouvement des gens qui travaillent sous la migration, qui travaillent contre le racisme, qui travaillent pour les droits des lesbiennes et des gays, qui travaillent sous l'environnement. C'est vraiment vers un monde plus juste qu'on veut aller et on veut le faire tous ensemble.
Mais donc en tout cas, ça se prolongera effectivement le 2 mars prochain, la semaine prochaine, avec cette conférence internationale She Decides. Je rappelle donc le site internet www.shedecides.com. Vous pouvez vous aussi vous mobiliser si vous le souhaitez. Alors en tout cas, merci à toutes les deux. Donc Vin Nguyen, je le rappelle, vous êtes chargée de recherche et plaidoyer genre et développement au CNCD 11-11-11. Et alors Irène Donadio, donc conseillère en stratégie politique à l'IPPF, donc la Fédération internationale du planning familial. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairé sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur la première à 20h pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
Merci.
En quête de sens sur la première.